Salut, salut! Je m'appelle Mathilde Piton et vous écoutez What's Next, le podcast des trajectoires de vie non linéaires. La saison 1 était dédiée au changement professionnel et dans cette saison 2, on va parler plus spécifiquement de l'influence de l'âge sur la suite de la carrière et sur la suite de la vie. Mon invitée aujourd'hui s'appelle Julie Roy. Julie a répondu au questionnaire que j'ai envoyé il y a quelques semaines sur l'âge, sur les sujets développés dans What's Next. J'ai fait tout un épisode bonus où je décortiquais les résultats et les réponses de Julie m'ont donné envie d'en savoir plus. C'est ce que j'ai fait. J'ai appelé Julie et on a discuté de plein de choses. Dans What's Next, on parle aussi de plein de choses, mais en fait on parle surtout de la midlife. En fait, la midlife, c'est le point de départ pour parler de plein de choses. Bref. Dans une newsletter hebdomadaire, payante, postée, envoyée tous les vendredis à 8h30. Vous pouvez vous y abonner donc dans une formule mensuelle à 7$ ou 6,50€ ou dans une formule annuelle qui donne un petit peu plus d'avantages. Ça coûte 70$ ou 65$ par an. Vous accédez à quoi ? Je suis en train de me perdre, faut m'aider là. Vous accédez à quoi dans What's Next ? Vous accédez aux archives, évidemment. Vous accédez toutes les semaines à un nouvel article, envoyé donc le vendredi matin. C'est souvent un essai personnel, la plupart du temps, sur des thèmes comme l'amitié, ce dont on va parler aujourd'hui. Je parle aussi du travail, du corps. La semaine dernière, j'ai parlé de la FIV aux États-Unis. C'était un petit peu plus politique, tout en étant aussi très personnel. Quand vous êtes abonné dans une formule annuelle, vous accédez au cours d'écriture du dernier mardi du mois. Il y en a un la semaine prochaine, si vous écoutez ça dans le jour où je sors ce podcast. Et puis voilà, et bien si vous êtes là, je suis super contente. Si vous n'y êtes pas encore, je vous invite à rejoindre whatsnextmathilde.substack.com. Ce sera en note de ce podcast. De quoi est-ce que j'ai parlé avec Julie ? Avec Julie, on a d'abord parlé d'organiser une grosse fête d'anniversaire pour ses 40 ans. Qu'est-ce qu'on fête quand on fête son anniversaire ? Quand on réunit des gens que la distance a éloignés, physiquement en tout cas. Bref, on parle de l'importance des amitiés et de comment entretenir les liens à distance. Avec Julie, on va aussi parler d'engagement politique dans l'environnement spécifiquement, car Julie est élue à la mairie de Montréal, où elle vit depuis un peu plus de 12 ans. L'âge est revenu dans notre conversation vers la fin, parce que je vais lui demander qu'est-ce qu'on ose plus quand on prend de l'âge ? Pourquoi Julie a décidé de se présenter à un certain moment de sa vie ? En gros, on a parlé d'expérience. Et puis, j'ai appris une nouvelle expression. J'ai appris l'expression « être sur son X ». Ça, faudra écouter tout l'épisode pour savoir qu'est-ce que ça veut dire « être sur son X ». Place à ma conversation avec Julie Roy. Julie vit à Montréal depuis plus de 10 ans, où elle est conseillère de ville. Elle a coécrit un livre qui s'intitule « Demain, le Québec », qui propose des initiatives pour un monde plus vert et plus juste. Et puis surtout, Julie, c'est une amie d'amis. C'est aussi une relation parasociale, puisqu'elle m'a dit avoir lu le blog pendant des années. C'est un peu gênant de le dire comme ça, mais je le dis quand même. Et enfin, Julie a eu 40 ans. Elle l'a fêté 3 fois. Et c'est de ça dont j'ai d'abord envie de parler avec elle, fêter son anniversaire. J'ai souvent entendu dire comme raison pour ne pas célébrer son anniversaire que les gens n'aiment pas nécessairement se mettre au centre de l'attention. Est-ce que toi, c'était ta raison première de fêter 3 fois ton anniversaire ? Tu voulais être au centre de l'attention ?
Non, ce serait bizarre si je disais oui, mais généralement je ne le fête pas beaucoup, je m'en fous un peu en fait, moi ça ne me dérange pas trop de vieillir, c'est juste que je trouve que c'est à 36, 37, 30, c'est moins une occasion de célébrer, mais là pour les 40 ans j'avais comme envie de marquer le coup, tu l'as dit au début là, mais ça fait longtemps qu'on vit à l'étranger, et donc nos copains en France, on les voit moins souvent quand on rentre une fois par an, là c'est peut-être pareil pour toi, mais il faut s'organiser longtemps d'avance, puis on ne peut pas voir tout le monde, donc je trouvais que de le fêter, un peu, en fait, moi je dis un peu de le faire comme un mariage, je savais que les gens ils n'allaient pas traverser la France ou avoir des plans de vacances pour venir juste pour un événement, pour une soirée, surtout que maintenant on a plus ou moins tous des enfants qui grandissent et tout. Et donc, on s'est dit que c'était cool de le faire sur un long week-end, c'était le week-end du 14 juillet. C'est sûr que ça m'a pris pas mal de logistique là, d'organiser ça en avance. Je pense qu'on a commencé presque un an à l'avance, un peu comme un mariage. On a réservé les maisons pour tout le monde, les maisons pour ceux qui venaient avec des enfants, ceux qui venaient sans enfants, les activités pour le vendredi. C'est ça, c'est un peu comme un mariage qui dure 4 jours.
Mais je vais te poser plus de questions. Je suis vraiment curieuse de ça parce que j'aimerais peut-être le faire. C'est raté pour mes 40 ans, mais je ne sais pas, pour mes 45 ou pour mes 50 ans, si j'ai encore des amis en France à ce moment-là. Mais comment tu t'es dit, déjà, comment tu as fait ta liste d'invités? Tu as encore des amis en France?
Bah, oui, c'est ce qu'on a invité. C'est, c'est sûr que c'est la distance, le décalage horaire et tout. C'est, disons que moi, ça fait presque 15 ans en fait, que je suis au Québec. Donc, ceux qu'on revoit chaque année... ceux à qui je parle chaque année, disons que ça doit être 8-10 familles, quelque chose comme ça, enfin 8-10 couples, mais avec les enfants, avec les, ben, en fait tu te retrouves vite à inviter 45 personnes, quoi. Donc on était quand même nombreux, mais ça, je te dirais qu'il y a 8 ou 10 couples ou copains, copines avec qui on est encore en lien, avec qui des fois on passe des vacances aussi quand on rentre, tu vois. Moi, j'ai appris de mes erreurs au début quand on revenait de Montréal. J'ai l'impression que je voyais 40 personnes en une journée et c'était débile, je racontais toujours la même chose, tu sais, tu buvais un café, je suis sûre que tu l'as fait aussi là où tu bois, tu as un agenda de malade sur ta journée que tu passes à Paris et tu prends un café avec quelqu'un, puis tu vas faire un lunch avec une autre personne et le soir tu vas boire des bières avec d'autres gens, puis en fait ça, je trouve que c'est trop superficiel, tu rentres pas dans les détails. Et donc là, nous, maintenant, quand on rentre, j'essaye de passer 3-4 jours avec quelques amis proches. Puis là, l'idée, c'était de ramener tous ces amis proches ensemble avec les enfants. Puis il y a plein d'enfants qu'on ne connaissait pas aussi, ou tu sais, des gamins que j'avais vus tout bébé et qui, là, en 10 ans, ça m'a donné un coup de vieux. Mais c'était cool d'avoir tout le monde rassemblé d'un coup, tu vois, vraiment en mode famille.
Ils se connaissent entre eux, tes amis?
La plupart, mais pas tous. Puis c'est drôle parce qu'il y avait aussi des Français qui habitent à Montréal et qui étaient en vacances en France à ce moment-là, et donc qui sont venus. Donc c'était un peu comme nos deux villes, la vie de Montréal et la vie de notre ancienne vie en France qui se mêlaient. Et ça s'est hyper bien passé, c'était cool. Même ceux qui connaissaient moins les gens se sont bien intégrés. On avait bien planifié les choses.
Donc tu fais ces 4 jours en Bretagne. Tu avais choisi, j'imagine, un endroit sympa.
J'ai la chance que mes beaux-parents habitent dans un super coin à Mesquer, près de Guérande, sur la côte atlantique. Donc on a commencé par un apéro vin blanc et huîtres dans les marais salants. C'était parfait pour partir le bal.
Donc tu as commencé, voilà, par cette fête de 4 jours en Bretagne. Ensuite, tu as fait une soirée à Montréal avec les gens locaux, collègues, amis du quotidien, voisins, c'est ça, tes amis, ouais. De Montréal. Et puis, tu as fait une troisième fête le jour J en famille, juste avec tes enfants et ton mec.
Voilà, c'était moins une fête, là. On a juste fait un gâteau symbolique en famille, histoire de souffler les bougies avec les enfants, là. Mais c'est drôle parce que même pour les enfants, et ils ont 6 et 9, les miens, et ben la grosse fête en Bretagne, ils s'en souviennent, ils disent « Ah, oh ouais, les fêtes ben, !» C'est mon chum, c'est un Québécois, mais j'ai plein de mots québécois qui vont sortir. Lui aussi, il fêtait ses 40 ans. Donc, en fait, c'était vraiment notre fête commune. Donc, lui, il est né en juin, moi, je suis né en septembre de la même année. Donc, c'est pour ça que c'était l'occasion d'inviter plein de gens. Pour nos enfants, ils se disent encore « Ah, oh ouais, les 4 jours, les 40 ans des parents, c'était trop bien !» Ils se sont couchés à 2h du matin, ce qui ne leur arrive jamais. C'est comme un souvenir qui va rester gravé. Par contre, pour la fête à Montréal, ils n'étaient pas là, on les a envoyés chez leurs amis, on l'a fait juste entre adultes.
Mais c'est ça que je voulais te demander, c'était comment tu t'es sentie, parce que moi, le seul souvenir que j'ai, il y en a quand même d'autres, mais le premier souvenir que j'ai d'une fête qui est faite en mon honneur, ou en tout cas qui est faite pour rassembler les gens, c'est effectivement en lien avec mon mariage, mais c'était mon enterrement de vie de jeune fille, qui était une après-midi et une soirée avec plein de copines de Paris. Et c'est vrai que j'ai eu un sentiment hyper chaleureux, en fait, de dire « ouais, ça fait du bien de se sentir aimé », quoi. Tout simplement, quoi. Toi, c'est ça que tu t'es ressenti. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi?
Oui, bah, il y a quand même un petit peu de... je reviens sur ce que tu disais au début, mais t'es un peu d'être au centre de l'attention. Mais bon, pour la fête en Bretagne, c'était notre fête, notre anniv à tous les deux, là. Mais d'être au centre de l'attention, mais surtout de voir... Moi, je trouve ça cool de voir les liens qui perdurent au fil des années, malgré la distance, que les gens organisent leurs vacances pour venir. C'est une méga belle déclaration d'amitié. Les gens qui ramènent leurs gamins et qui traversent la France, voire l'Europe, pour venir là, c'est quand même un signe cool qu'on arrive à garder des relations outre-Atlantique, comme on dit. Mais je trouve que c'est... On n'a pas souvent l'occasion de faire des gros rassemblements comme ça, donc je trouve que ça, ouais, ça témoigne d'un à quel point l'amitié c'est précieux et puis qu'on est prêt, qu'il faut faire des efforts aussi. C'est sûr que pour nous aussi, là, niveau logistique, c'était un gros bout d'organiser tout ça à distance. Mes beaux-parents, ils ont été super cool, ils ont organisé plein plein de trucs parce que eux étaient sur place, quoi. Ouais, c'est ça prend des deux côtés en fait, ça prend de l'organisation, mais mon Dieu, ça valait la peine.
Ouais. Mais tu sais, tu dis, ouais, quand tu rentres à Paris, tu dois voir plein de monde et tout. Moi, j'ai tendance à ne pas contacter beaucoup de monde quand je rentre et de voir très peu de gens. Mais je sais que je me prive de quelque chose en faisant ça. Et quand je t'entends ça, je sais, c'est cet effort qui est mutuel, mais qui est à fournir, où des fois, je me dis, je me prive de quelque chose de hyper positif parce que j'ai pas envie de voir si, justement, si les liens sont encore là. C'est horrible, en fait, hein.
Bah, en fait, moi, je le fais plus d'aller à Paris et de voir. Ça, c'est quand tu vois 12 personnes en une journée. Ça, je le fais plus. Mais en fait, je pense que peu importe l'endroit où tu habites, on arrive quand même à des âges où on a moins de temps parce qu'on a des enfants en bas âge ou plus de boulot, puis moins d'énergie aussi parce qu'on vieillit. Mais je pense que ça vaut la peine avec les gens. C'est même pas une question de fréquence, en fait. C'est même pas être des amis du quotidien. Les gens proches, même si ça fait 2 ans que tu t'es pas vu, tu retrouves une familiarité tout de suite. Maintenant, je préfère avoir plus de temps de qualité avec moins de gens plutôt que d'avoir plein plein de gens d'un coup qui viennent. C'est pour ça que les 4 jours, c'était cool, tu vois. On réussissait à faire des petits moments à la plage, à 4-5. Il y en a qui sont venus juste pour la soirée, ceux qui habitaient pas loin, mais il y en a qui sont restés plus longtemps. Tu sais, ça permettait d'avoir plusieurs ambiances différentes tout au long des 4 jours.
J'ai envie de parler de ton job, de ta job. Tu es conseillère de ville dans un quartier de Montréal. Alors déjà, pour être sûre d'avoir bien compris ce que ça signifie, est-ce que c'est un poste d'élu?
Ouais, en fait, je suis élue. C'est exactement comme à Paris, où à Paris, il y a une maire, en fait, on dit une mairesse au Québec. Donc, il y a la mairesse de Montréal, et puis après, il y a 19 arrondissements à Montréal. Donc, il y a 19 maires et mairesses et des conseillers municipaux. Ça ressemble beaucoup au fonctionnement de Paris. Donc, ça, j'ai été élue il y a 2 ans et demi.
Mais alors pourquoi, ma première question, j'ai plein de questions, et pourquoi la politique plutôt que l'associatif ou une autre forme d'engagement à un niveau plus individuel ou hyper local, vraiment de quartier ou quoi? Pourquoi vraiment de se dire ou à un moment, ok, ça va être un engagement politique, quoi, je vais aller faire campagne?
Bah, en fait, moi, j'ai toujours été engagée. J'étais bénévole dans plein plein de trucs. Là, tu parles d'engagement local, de vie de quartier. Je travaillais en environnement dans deux grosses. En fait, ça fait 15 ans que je travaillais en environnement, en mobilisation citoyenne. D'abord chez Greenpeace, puis après dans une autre asso, une autre ONG qui s'appelle la Fondation David Suzuki, qui est hyper connue au Québec et au Canada, mais beaucoup moins en Europe. Même si David Suzuki, c'est une rock star, tout le monde le connaît. C'est un mix entre. Il a 80 ans, là, mais c'est un mix entre l'abbé Pierre et Cyril Dion, un peu. Un mec hyper inspirant. Et donc, sa fondation, c'est une ONG, là, mais qui est hyper respectée. C'était vraiment cool de bosser là-bas. Mais à force de livrer des combats environnementaux qu'on ne gagne pas toujours, on faisait beaucoup de travail, de lobbying auprès des élus à différents niveaux. Et à un moment, je me suis dit que ce serait cool d'avoir des élus qui étaient déjà convaincus de l'urgence climatique, en fait, pour pas recommencer notre travail à chaque élection, d'aller les sensibiliser et tout ça. Et donc, je me suis présentée, pas pour gagner, en fait, plutôt pour apprendre comment ils faisaient dans le monde politique. Et au début, j'étais juste bénévole. Et puis finalement, je me suis retrouvée candidate. Et puis finalement, je me suis retrouvée élue, alors que c'était pas tant prévu que ça.
Mais tu faisais quoi avant ce poste d'élu, en
Eh
plus de
bien.
ton travail bénévole, quoi?
En fait, quand j'étais à la Fondation David Suzuki, j'étais pas bénévole. C'était un vrai boulot, comme chez Greenpeace, là. C'était un vrai boulot payé à temps plein où je faisais de la mobilisation citoyenne. C'est un peu comme ce qui se passe en France, là, contre la 69 ou bref, des projets environnementaux où tu vas organiser la mobilisation sur le terrain pour les citoyens qui veulent s'opposer mais qui savent pas comment s'y prendre, en fait. Où tu fais un peu une structure, une organisation sur le terrain.
Et est-ce que tu as l'impression, ou c'est peut-être trop tôt pour le dire, mais tu as l'impression que justement d'être rentré dans la machine politique ou d'être vraiment au niveau de la municipalité, ça a permis d'accomplir plus de choses ou des choses différentes que d'être dans la fondation?
Mais c'est hyper utile, en fait. Je pense que pour mettre en place des actions qui vont non pas arrêter, mais au moins freiner l'urgence climatique. Il faut que ce soit une collaboration à tous les niveaux. Je pense que le secteur associatif, les citoyens, ils sont hyper importants, mais il faut aussi avoir des élus qui comprennent l'urgence climatique. Donc, tu sais, c'est comme un cocktail de mesures et d'actions. C'est hyper complémentaire. Moi, je trouve que c'est vraiment chouette d'avoir la base environnementale et les citoyens qui peuvent nous pousser à faire plus de choses. Et je ne trouve pas avoir plus de pouvoir depuis que, plus d'influence depuis que je suis élue. Mais disons que ça rajoute une carte dans toutes les actions qui peuvent être prises pour mettre en place des mesures environnementales.
J'ai une double question. Tu fais quoi du coup, concrètement, jour après jour, dans ta semaine de travail? Et quels sont tes objectifs, quelle est ta mission en fait, dans ton travail de conseillère de ville?
Ah, mais ça, c'est une question qui revient tout le temps. Qu'est-ce que tu fais quand tu es élue? Je pense que c'est hyper différent d'un pays à l'autre. Et puis, ça dépend si tu es député, si tu es au niveau municipal, au niveau fédéral. Donc, ça varie énormément. Je te dirais que je suis encore en train d'apprendre. Là, ça fait 2 ans et demi. Puis, c'est une grosse machine quand même. Il y a 30 000 employés à la ville de Montréal. C'est compliqué de comprendre tout ça, mais il y a plein de sujets sur lesquels j'ai moins de connaissances, le logement social, le sport et loisirs, la culture, le développement économique, enfin, c'est fou là, tout ce qui est fait au niveau de la ville, au niveau municipal. Moi là, je travaille vraiment beaucoup sur les enjeux de mobilité urbaine, tu vois, de développer, de mettre en place des pistes cyclables, de réfléchir à des hubs de livraison aussi pour que ce soit des vélos cargo ou des véhicules électriques et pas des méga camions Amazon qui vont livrer dans les petites rues locales. Comment tu fais pour développer le transport en commun et la mobilité active, surtout en Amérique du Nord où c'est le royaume de l'auto. Là, ça doit être pareil à Boston, mais où, tu sais, on a moins une tradition de rue piétonne et de se déplacer, de petites places publiques, de vie de quartier, c'est moins implanté qu'en Europe. Donc, comment est-ce que tu peux transformer ces habitudes-là auprès de la population? Donc, ça, moi, je travaille surtout là-dessus, mais mon Dieu, ouais, c'est compliqué comme boulot.
Je trouve quand même que, si je parle pour Boston, Cambridge et Somerville, vraiment l'agglomération proche de la centrale de Boston, en 12 ans à vivre ici, je trouve que ça a déjà vachement changé. Et justement, tu parles de mobilité. Je ne sais pas comment ils le diraient ici, mais j'ai vu les pistes cyclables s'améliorer, d'être non seulement des pistes cyclables protégées. Après, ici, tu as la question de comment tu les déneiges. Tu sais, tu ne peux pas complètement les fermer parce que les machines, elles ne passent pas pour déneiger. Mais c'est vrai que ça évolue. En tout cas, ici, à Boston, ça a vachement évolué en 12 ans.
Ouais, ben nous, à Montréal aussi, clairement. Puis c'est hyper positif, mais je pense que si ça touche probablement, on est quand même dans des coins hyper progressistes, là, que ce soit Montréal ou la Nouvelle-Angleterre. Je pense que la place de l'auto, elle est encore hyper forte en Amérique du Nord, mais même dans des villes progressistes comme les nôtres. Mais oui, c'est un travail du quotidien. Puis tu vois, là, je sors d'une réunion sur le déneigement des pistes cyclables avec les travaux publics, où c'est quelque chose qu'ils n'étaient pas habitués à faire, mais on travaille sur augmenter le nombre de cyclistes toute l'année à Montréal. Puis je pense qu'il devait y avoir pas mal de neige. C'est la ville d'Amérique du Nord où il y a le plus de neige, mais il y a plein d'exemples en Finlande ou en Scandinavie où les pistes, elles sont... en fait, tu fais du vélo à l'année, puis à Montréal aussi. Hein, moi, j'en fais toute l'année maintenant. Mais ça, c'est un changement de comportement et de mentalité qui prend du temps aussi de faire infuser ça dans la population. Donc, ouais, d'être élu, ça permet de favoriser, d'accélérer certaines choses.
Et tu as l'impression, là, tu dis que tu circules en vélo toute l'année. Est-ce que tu as l'impression que est-ce que tu as un devoir d'exemplarité dans ta façon de vivre? Parce que tu es une élue qui travaille pour l'environnement.
Un peu, ça, c'est peut-être un peu une pression que je me mets toute seule aussi, là, mais que je me mettais déjà, pour mes amis, même avant d'être élue, là, j'étais toujours... l'écolo de service, là, tu vois, celle qui ramène ses Tupperware quand elle va chercher des sushis, celle qui mange pas de viande, donc je trouve qu'il faut vraiment sortir de cette exemplarité individuelle. Là, je lutte contre moi-même, en fait. Je veux dire, rien que le fait de prendre l'avion parce que je suis d'origine française, ma famille, elle est encore là-bas. Donc je trouve qu'il faut vraiment sortir de cette fausse croyance que c'est les petits gestes individuels, là, c'est collectivement qu'on va avoir de l'impact. Et puis, de vouloir culpabiliser t'es écolo, puis t'as un iPhone. Bah oui, j'habite pas dans une caverne. Je trouve qu'on a beaucoup plus d'impact collectivement quand on va faire des changements structurants plutôt que de, Sinon, tu sais, c'est un peu juste les riches personnes blanches aisées qui vont pouvoir aller au vrac parce que ça prend du temps et que c'est plus cher. Mais donc, je lutte contre ma tendance à vouloir être exemplaire. J'ai pas de voiture et tout ça, ce qui est quand même rare à Montréal quand tu as deux enfants et tout. Mais je le fais vraiment par conviction et pas par obligation.
Est-ce que tu as une pression de te faire réélire? Est-ce que ça fait partie, c'est une partie du travail auquel tu n'avais pas pensé? Ou tu y as peut-être pensé?
En fait, moi, quand je me suis présentée, je m'attendais pas forcément à être élue. J'ai été ce qu'on appelle un candidat poteau. Ça veut dire que tu te présentes en sachant que tu vas perdre parce que j'étais contre un candidat qui était déjà élu, qui se représentait. Donc, j'étais pas censée gagner. Je sais pas encore si je me représente. Si je me représente, j'y vais pas pour perdre. Tu vois, si j'y vais, c'est parce que je me dis que j'ai encore quelque chose à apporter en tant qu'élu. Après, je trouve que moi, je vois pas du tout ça comme un métier, en fait. Je pense qu'il faudrait limiter le nombre de mandats. Ça doit être quelque chose où il faut pas s'habituer, il faut pas devenir blasé, il faut pas avoir le goût du pouvoir, en fait. Faut y aller juste par conviction et parce que tu penses que tu es le meilleur candidat pour continuer à faire changer les choses dans l'endroit où tu es élu. Donc non, pour l'instant, j'ai pas le goût du pouvoir. Et puis c'est probablement ça qui fait de moi une élue abordable, en fait, parce que tu sais, moi je suis juste une citoyenne engagée avec deux enfants qui fait du vélo et puis qui s'est présentée et qui a été gagnée, qui a été élue, je veux dire. Et donc j'aimerais bien garder cet aspect hyper concret d'avoir les pieds sur terre et de pas être attirée par le pouvoir.
Mais donc, dans ta semaine, par exemple, tu as des horaires de bureau où tu vas recevoir des citoyens de ton quartier ou de la ville en général et qui viennent te poser des questions.
J'ai des horaires hyper irréguliers, en fait. C'est ça qui est cool, c'est qu'il n'y a aucune semaine qui se ressemble. Il y a quelques obligations qui sont le conseil d'arrondissement et le conseil municipal. Le conseil municipal, c'est pour toute la ville de Montréal. Donc, c'est tous les élus qui viennent à l'hôtel de ville. C'est un gros moment. Ça dure 2 jours. C'est là où tu essayes d'être bien habillé. Et puis, c'est long. Et puis, là, il y a des discours avec l'opposition et tout ça. Et après, il y a les conseils d'arrondissement, exactement comme à Paris, là. Juste les 4-5 élus de l'arrondissement qui se retrouvent. Et puis, on vote des trucs, des lois, des règlements. C'est pas vrai, c'est pas des lois, mais des règlements. Tu vois, par exemple, ce qui est hyper concret, c'est oui, est-ce qu'on va déneiger en premier les pistes cyclables ou les routes? Ou est-ce qu'on va. Là, on est en train d'implanter la collecte. Ça n'a pas l'air très sexy dit comme ça, mais la collecte, le compost pour les institutions comme les écoles et les entreprises et tout ça. Puis, tu sais, ça a l'air facile, mais en fait, c'est hyper compliqué de convaincre des gros organismes de comment est-ce qu'ils mettent leurs poubelles ou comment on les forme. Donc, il y a des fonctionnaires qui travaillent là-dessus, évidemment, mais les élus, ils donnent les orientations. Est-ce qu'on va le faire tout de suite ou est-ce qu'on attend 2026? Est-ce qu'on commence par ça ou comment on fait la collecte des sapins après Noël? Et moi, j'essaye de prendre chacune de ces décisions-là avec un œil de transition socio-écologique et d'urgence climatique.
C'est marrant que tu mentionnes des décisions qui ont l'air presque anecdotiques, mais qui comptent dans la vie de quartier. Moi, j'ai longtemps habité dans un quartier central de Boston et j'avais aucune attache dans mon quartier. Et maintenant, j'ai changé. Je vis dans un quartier où, en fait, on reçoit des tracts, on est invité à des débats et ce genre de choses. Et récemment, il y a un truc qui a été voté où, en fait, le déneigement commence par enfin, ça commence par les rues, mais tu n'oublies pas les intersections. Parce qu'en fait, quand tu es en poussette ou quand tu es une personne à mobilité réduite, tu ne peux pas passer les intersections quand il y a des montagnes de neige. Et en fait, il y a une conseillère qui est dans un de mes groupes de moms sur Facebook qui avait dit, si ça vous gêne, envoyez des photos, écrivez à telle personne, c'est comme ça qu'on peut avoir du poids. Et je suis contente d'être en relation avec elle. Et donc, moi, j'ai envoyé des photos de ma poussette bloquée à une intersection. On n'a pas eu de neige cette année, mais c'est arrivé, quoi.
Ben c'est exactement ce qu'on fait. En fait, ça, c'est même mettre en place le déneigement féministe. Ça aussi, ça vient de Scandinavie. Mais c'est justement traditionnellement, mon Dieu, je pense pas que j'allais faire un cours sur le déneigement dans ton podcast, mais traditionnellement, c'est les grosses artères qui sont déneigées en priorité pour les véhicules d'urgence, mais aussi pour les bagnoles, quoi. Et en fait, il y a plein d'études qui montrent que les lendemains de tempête de neige, il y a une explosion de femmes et de femmes actives, des mamans et tout, aux urgences. Parce que, en fait, on déneigeait pas en priorité les rues où il y a des garderies et des écoles. Et en fait, c'est les mères, parce que c'est plus les mères que les pères, qui ont les poussettes, le sac, qui font le détour pour aller déposer le plus petit à la garderie, ou à la crèche, ensuite à l'école, ensuite tu vas au métro. Et donc, c'est des trajets qui n'étaient pas priorisés pour le déneigement. Et ça, c'est exactement des réflexions que nous, on peut amener en tant qu'élus. Donc, ouais, c'est cool de, tu vois, de sentir qu'on a cet impact-là. Je trouve que c'est hyper réjouissant de pouvoir changer les choses. Alors, on s'entend, c'est à petite échelle, là, tu vois. Moi, quand j'arrive à faire installer un panneau d'arrêt, un panneau stop devant une école, je trouve que ça a un impact hyper important pour le voisinage, quoi. Ça veut dire que les enfants, ils pourront aller à pied à l'école alors qu'avant les parents ils les déposaient en bagnole. Donc je trouve que c'est comme ça qu'on fait des changements de comportement à l'échelle locale. Et je trouve que l'échelle locale, c'est vraiment cool pour avoir de l'impact dans un quartier et puis de connaître tes voisins et tout ça.
Tu as fait une remarque j'avais envoyé un questionnaire sur l'âge et tu avais fait une remarque dans ce questionnaire où tu disais que tu n'aurais pas osé te présenter à une élection, même si tu dis que tu savais que tu imaginais que tu allais perdre, 5 ans, il y a 5 ans, en fait, que tu as attendu un certain âge pour le faire. Est-ce que tu veux m'en dire plus? Est-ce que tu as vraiment eu cette impression qu'à un moment, il y a eu une sorte de déclic où tu dis, c'est bon, maintenant, il n'y a plus rien qui m'empêche de me présenter? Une légitimité ou une confiance en soi, ou qu'est-ce qui s'est passé, tu penses?
Bah, ça s'applique pas que à la politique, mais c'est parce que je m'étais pas dit, ah, vivement que j'ai 40 ans pour me présenter en politique, puisque c'était pas forcément. Là, moi, je vois plutôt ça comme un moyen plutôt que comme une fin en soi, un moyen d'accélérer d'accélérer l'adaptation au changement climatique. Ben, je trouve qu'en fait, c'est probablement ce qu'on appelle l'expérience parce qu'on vieillit. Mais je pense que c'est une somme de ce que j'ai vécu avant, mais aussi des lectures et des apprentissages. Moi, j'écoute une tonne de podcasts féministes je fais plein de lectures sur ces sujets-là. Je chante dans une chorale féministe où c'est super, je sais pas comment dire en français, mais en empowering. Je crois que ça se traduit mal en disant autonomisant ou empuissancement. Bref, je sais pas ce que c'est la bonne traduction de ça. Mais de voir, une fois que tu mets tes lunettes mauves, là, je crois que c'est ça l'expression en France, tu vois juste les freins que tu as en tant que femme. Donc à un moment, je me suis dit qu'il y a personne, si moi je prenais pas moi-même la barre en me disant, OK, là, en fait, il y a personne qui va me donner la main pour me dire, oh, si tu te présentais, et si tu faisais ça, et si tu prenais plus de place. Donc, ça, à un moment, mais je pense que c'est vraiment le fait d'avoir vieilli qui m'a fait me dire, je vais pas, c'est let's go, quoi. Il y a personne qui va le faire à ma place. Donc, j'y vais. Ça va être compliqué, mais j'y vais. Et en fait, ça m'a, d'un point de vue, là, je reviens sur la politique, mais ça m'a énormément, aider de voir qu'il y avait déjà des femmes en politique, que c'était déjà une mairesse qui était à la tête, enfin une femme qui était à la tête de la mairie de Montréal et qui avait plein d'élues femmes. Elles avaient toutes des enfants en bas âge. C'est les premières, tu sais, qui sont venues allaiter avec leurs kids dans la mairie ou à l'Assemblée nationale. Puis ça s'est vu en France aussi. Et donc je trouve qu'en fait d'avoir des modèles, je m'étais jamais rendu compte. Moi, j'ai grandi dans les années 80 où tu pensais que le féminisme c'était gagné, mais en fait tu vois à quel point le patriarcat il imprime tout, tout, tout dans la société. Et donc de voir le Québec, c'est quand même une société qui est vachement en avance, qui est pas non plus parfaitement égalitaire, mais qui est vraiment en avance comparé à d'autres pays. Et donc de voir d'avoir des exemples, c'est sûr que ça m'a comme ouvert un rideau un peu. Et si ça avait été un homme à la tête de la mairie de Montréal, je suis pas sûre que juste que j'aurais pensé à aller faire un tour en politique.
Tu veux dire son nom? Parce que je ne le connais pas, le nom de la mairesse de Montréal.
Ah, elle s'appelle Valérie Plante.
C'est une femme aussi, la mairesse de Boston, et pour la première fois depuis extrêmement longtemps, ce n'est pas un homme blanc d'origine irlandaise ou catholique, c'est une fille d'immigrés taïwanais, et elle avait, je crois, 37 ou 38 ans quand elle a été élue.
Donc c'était un gros changement pour la mairie de Boston d'avoir cette femme jeune asiatique qui dirige la ville, quoi.
Ah, bah, je savais même pas, mais à Toronto aussi, c'est ça. C'est la plus grosse ville au Canada. Et puis, c'est une femme asiatique, d'origine asiatique, qui a été élue il y a quelque temps après une succession d'hommes blancs. Donc, ouais, je trouve que c'est, tu sais, d'avoir des modèles comme ça, c'est sûr que ça ouvre des portes. Et en fait, j'étais même pas consciente que ces modèles n'existaient pas quand je les voyais pas.
Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, en même temps, ici, nous, on est dans une grosse année politique aux États-Unis avec l'élection présidentielle. Hier, je voyais une copine et qui me disait, mais tu crois que ça y est, il est déjà réélu, Trump? Et je lui dis, c'est vrai que c'est dur au niveau national, en tout cas aux États-Unis, d'avoir l'espoir d'un changement avec deux personnes extrêmement âgées. On parle d'âge ici. Bon, là, c'est des gens qui sont très âgés. Ou des fois, tu te dis, mais pourquoi c'est pas des gens un peu plus jeunes, ne serait-ce que 60 ans, 50 ans, qui se présentent? Bon, là, on dévie un peu, mais.
Mais par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que pas mal partout dans le monde, c'est au niveau local, donc municipal, qu'il y a beaucoup de progressistes qui continuent à être élus. Là, on vient de parler de Boston, Montréal et Toronto, mais en France aussi, il y a eu ça avec, tu sais, tous les maires verts à Grenoble, à Bordeaux. Donc, je pense que souvent, il y a une. Puis au Québec, là, ça a été un rajeunissement incroyable. Les 10 plus grandes villes du Québec ont tout été, à l'élection où j'ai été élue, là, il y a eu un rajeunissement incroyable avec une mairesse de 25 ans, beaucoup de femmes qui ont été élues au pouvoir. Je pense que c'est vraiment au niveau local que tu vois, tu sais, où ça peut peut-être un peu contrer l'émergence des ultra-conservateurs ou de l'extrême droite selon les pays où tu es. Mais parce qu'au niveau local, tu as un ancrage et puis tu connais beaucoup plus souvent les élus municipaux sont beaucoup plus abordables que les élus des autres niveaux. En tout cas, ça me donne un petit peu d'espoir de voir ça.
Mais du coup, je cite aussi la gouverneure du Massachusetts, qui est une femme et qui est la première femme ouvertement gay, Maura Healey. Ça, c'était aussi un changement dans la politique du Massachusetts. Est-ce que tu regardes ce qui se passe en France? J'ai l'impression que là, tu m'as cité deux, trois trucs, l'autoroute A89. Enfin, il y a des choses, moi, de la France, je n'arrive plus à suivre. Mais toi, tu te sens encore. Où est-ce que tu
Non.
regardes maintenant?
Non, je me sens. Bah, ça fait longtemps qu'on habite là. Je suis les trucs environnementaux parce qu'il y a des choses quand même cool, là, genre Camille Etienne, où il y a vraiment des militants qui sont hyper. Des militantes, en l'occurrence, qui sont hyper inspirantes. Et tu sais, je le vois un peu comme une revue des meilleures pratiques, de qu'est-ce qui se fait de super bien, qu'on peut amener ici. Puis souvent en politique municipale, l'Europe est souvent citée en exemple pour enlever la place de l'auto. Là, je pense à chaque fois que je reviens à Paris, j'hallucine de voir la rue de Rivoli qui est devenue 100% piétonne. Je travaillais là-bas il y a 15 ans et je me dis, enfin 100% cycliste, je veux dire. Et c'est fou quoi, de voir ça ou les quais de Seine, où avant c'était une autoroute et puis ça a été d'abord juste le dimanche et maintenant c'est fermé tout le temps à la circulation. Ça, je trouve ça hyper inspirant. Donc, c'est souvent des exemples qui reviennent dans les podcasts ou dans les ça, tu sais, dans toutes les mobilités urbaines, c'est l'Europe qui est souvent citée. Donc c'est le seul truc que je suis, mais non, sinon ça commence à faire longtemps que j'habite loin. Donc dans la quotidienneté, là, me demande pas qui sont même le ou la première ministre, je ne sais même pas qui c'est en France en ce moment.
Je sais qu'il vient juste de changer.
Ah si, je
Vient
sais
de...
qui c'est, oui, c'est les jeunes. Ouais, c'est ça.
Tu te sens maintenant complètement canadienne? Vous avez la citoyenneté? Ou comment ça s'est passé pour vous, l'ancrage local, l'ancrage canadien, québécois?
Alors oui, canadien et québécois, c'est pas pareil là. Effectivement, j'ai un passeport canadien, mais il y a une grosse différence entre le Québec et le Canada. Moi, je me sens vraiment québécoise et pas du tout canadienne, comme beaucoup de Québécois. C'est un peu comme la Catalogne et puis et le reste de l'Espagne là, mais il y a vraiment une énorme différence en fait entre le Québec et le reste du Canada. Bah oui, moi je me sens québécoise, mais je pense qu'en fait t'es toujours l'étranger de quelqu'un. Tu sais, quand je rentre en France, les gens ils nous appellent les Canadiens. Quand je suis ici, c'est sûr que les Québécois pure laine, ils nous considèrent probablement comme des immigrants. Ici on dit des Français de France. C'est pas pareil quand je suis à Montréal ou quand je suis en région. Enfin, en région, ça veut dire hors de Montréal. Non, je crois que j'ai un peu fait la paix avec le fait qu'on sera toujours, ouais, c'est ça, l'étranger de quelqu'un, quoi. Mais oui, moi, je me sens ultra montréalaise, en fait.
Est-ce que tu as un objectif ou un rêve que tu souhaites réaliser dans les 3 à 5 prochaines années, un accomplissement qui peut être personnel, un voyage ou ce genre de choses, ou un accomplissement professionnel secret que tu as dit à personne, que tu vas dire ici?
C'est sûr que moi, là, les 2 prochaines années, elles vont beaucoup dépendre de si je me représente ou pas et si je gagne ou pas. Non, ce serait pas ce serait pas du tout dans les voyages parce que j'étais, même si ma famille est loin, que je prends l'avion, mais je veux absolument réduire ça. Non, je sais pas. J'ai pas de. En fait, là, je trouve que je suis quand même dans un moment de ma vie où je suis pas mal sur mon X. Je sais pas si c'est une expression québécoise ou si on dit ça en France. Non, tu connais pas.
C'est pas mal sur son corps, dit.
Être sur son X, ça veut dire que t'es à l'endroit qui te correspond en ce moment. Ça évolue aussi là, mais mes enfants commencent à grandir. Je trouve que tu sais, on retrouve un petit peu d'autonomie. Donc, j'aimerais bien réussir à mettre en place des choses structurantes pour le quartier où je suis élue et pour la ville de Montréal. Tu vois, des pistes cyclables et des changements de mentalité dans la mobilité qui vont vraiment avoir un impact durable.
Julie, on a commencé sur toi, sur ton anniversaire, on avait mis l'attention sur toi et là tu ouvres sur les autres, c'est magnifique.
Je le dis sans cynisme.
Dans quelle ère de ta vie tu te trouves? Tu te trouves si tu étais en temps ère du X, quoi.
Ça marche pas. Ouais, c'est ça. Putain, je trouve que c'est quand même d'être loin, c'est aussi difficile d'avoir des enfants et tu connais ça là, mais de vivre loin de la famille et d'avoir moins d'aide pour de ne pas avoir les grands-parents à proximité, même si mes parents ils viennent souvent et tout, je trouve que c'est quand même difficile. Et donc je trouve qu'il faut vraiment, tu sais, il y a une expression qui dit il faut tout un village pour élever un enfant, et je trouve que c'est exactement ça ce que j'ai envie de développer, tu vois, d'avoir un réseau hyper soudé autour de nous, de savoir appeler à l'aide quand tu as besoin, tu vois. Je trouve que de connaître son voisinage, de connaître les parents de l'école et de pouvoir s'aider, et ben c'est hyper précieux. Alors c'est un travail qui est en perpétuelle évolution, je veux dire, c'est jamais fini, quoi, mais je trouve que c'est cool d'avoir de se dire qu'on a un moment de sa vie où si on a une galère, on peut appeler des gens autour de nous.
On a développé son village, quoi. Écoute, merci beaucoup Julie et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite.
Merci Mathilde, toi aussi.
Et voilà, merci Julie d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à vous de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, je vous donne rendez-vous sur Substack pour découvrir le cœur du projet What's Next, à savoir les textes diffusés dans la newsletter hebdomadaire et la possibilité évidemment de commenter, de partager vos propres histoires. C'est quand même ça qui rend le projet intéressant, savoir qu'on parle pas dans le vide, que je parle pas dans le vide et qu'il y a des personnes qui me répondent. Cette semaine, on parle de bien vivre à travers des conseils donnés par des enfants de moins de 5 ans. C'est très sérieux, c'est une étude du New York Times et je vous donne ma version personnalisée dans un essai qui s'intitule « On se dépêche ». Alors, je ne suis pas sûre qu'il s'intitulera comme ça jusqu'au bout, mais c'est son working title, c'est le titre en cours. Si vous avez aimé cet épisode, likez le podcast, partagez-le, parlez-en autour de vous. Vous êtes 30 à avoir laissé une note sur Spotify, alors que vous êtes bien plus nombreux, je le vois, et nombreuses à écouter ce podcast. Faites-le-moi savoir, mettez-les 5 étoiles. Ouais, rien que ça. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.